Bonjour Bertrand Badie, politologue, spécialiste des relations internationales, auteur de « Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse » paru aux éditions La Découverte, est intervenu dans le cadre des mardis de l'IEA au LU sur le thème de la politique de puissance à la politique de faiblesse.
La recherche scientifique, c'est toujours le résultat d'une insatisfaction. L'éternel satisfait ne peut pas être un chercheur, ne peut pas être un homme de science. Parce que toute découverte dérive d'une énigme, donc il faut que quelque chose vous étonne, vous mette mal à l'aise. C'est la fameuse histoire de la pomme de Newton. Newton se balade dans son verger, une pomme tombe, ça aurait pu le laisser indifférent, il n'y aurait jamais eu de découverte scientifique. Et son génie, c'est d'avoir été insatisfait en constatant que la pomme tombait et ne volait pas. Cette insatisfaction a été l'élément enclencheur. En sciences sociales, en sciences politiques, en relations internationales, c'est exactement la même chose. Mon métier consiste, dans sa première étape, à faire cette quête de l'insatisfaction et donc de l'étonnement. Et à partir de là, tout s'enclenche et, avec un peu de chance, va jusqu'au bout. Pas de la découverte, il ne faut pas exagérer, ce terme est assez peu approprié aux sciences sociales, mais en tous les cas, à une construction renouvelée des matériaux d'analyse des situations politiques et, en l'occurrence, situations internationales.
Partant du principe que l'histoire de la décolonisation est connue, qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut nourrir d'autres pistes de réflexion ?
D'abord, je ne vous suivrai pas lorsque vous dites la décolonisation, on connaît. Moi, ce qui m'a frappé et qui était la source de mon insatisfaction, c'est qu'on ne la connaît pas. Elle a été, cette décolonisation, comme enfouie sous la guerre froide, qui était quand même l'élément déterminant, dominant, organisateur de la vie internationale dans les années 50-60, c'est-à-dire celle de la décolonisation. Et du coup, rappelez-vous, à l'époque, on parlait de tiers-monde, on parlait de périphérie. C'est-à-dire c'est des choses qui se passaient à la marge, on n'y prêtait pas attention. Et puis la deuxième insatisfaction, moi qui m'a fait réagir, c'est de dire, mais dans le fond, cette décolonisation a complètement changé la face du monde. Jusque dans les années 60, le monde, c'était en gros l'Europe plus l'Amérique du Nord, et on pouvait descendre jusqu'à l'Amérique du Sud, mais qui était vraiment très très passive sur l'échiquier international. Et puis tout d'un coup, le monde, c'est devenu le monde entier, c'est-à-dire tous ces pays décolonisés. 51 États membres fondateurs des Nations Unies, 193 aujourd'hui. Donc il s'est passé quelque chose d'énorme, et qu'est-ce que l'on a fait pour adapter nos règles internationales, notre droit international, nos pratiques internationales à cette révolution copernicienne? Pratiquement rien. Et puis, il y a eu un troisième étonnement sur lequel, finalement, j'ai bâti ma recherche, c'est comment expliquer que de cette décolonisation est sorti non seulement un chaos, qui caractérise les sociétés et les systèmes politiques décolonisés, mais même un déplacement du champ de bataille du monde, qui pour la première fois a quitté l'Europe, et est venu s'installer en plein cœur des terres décolonisées, c'est-à-dire en Afrique sahélienne ou celle du bassin du Congo, ou au Moyen-Orient. Et donc, c'est bien la preuve qu'il s'est passé un important séisme politique, que ce séisme a fait beaucoup de dégâts et continue à faire beaucoup de dégâts, mais qu'on ne sait ni véritablement l'expliquer, ni surtout le traiter. Et finalement, aujourd'hui, nous payons très cher la facture d'une décolonisation ratée. Et le thème que je vais développer ce soir, c'est d'expliquer comment, dans ce contexte, la puissance a chuté. Et au contraire, c'est la faiblesse qui s'est mise à dominer. C'est-à-dire que le grand paradoxe de notre monde actuellement, c'est qu'il est l'otage de la faiblesse et non plus de la puissance. Pendant des siècles, la puissance a organisé le système international. Le système international, c'était très simple jusqu'en 1945 et même jusqu'en 1989, c'était la concurrence des puissants. Et le plus puissant qui l'emportait sur le moins puissant. Aujourd'hui, les puissants, ils regardent. Et surtout, ils regardent sans être capables de changer l'ordre nouveau des choses. En revanche, qui fait l'agenda international, qui décide des événements importants, qui est source de conflictualité, c'est les faibles.
C'est pas une, entre guillemets, une délocalisation des conflits des puissants ?
Eh ben, si c'était une délocalisation, vous voyez, lapsus est révélateur. Si c'était une délocalisation, à ce moment-là, le jeu de puissance réémergerait là où il s'effectuerait. Mais il n'y a pas de jeu de puissance. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les acteurs, j'allais dire propriétaires de ces conflits, ne sont pas les puissants. Ceux qui ont en quelque sorte enclenché ces logiques conflictuelles ne sont pas les puissants. Les puissants, évidemment, pour réflexe de s'en mêler, mais dès qu'ils s'en mêlent, eh bien, ils constatent leur échec, peut-être même leur défaite, style l'humiliation subie par les États-Unis en 1993 en Somalie, l'humiliation subie en Irak, l'humiliation subie en Afghanistan et l'humiliation subie par l'URSS aussi en Afghanistan en 1979, l'humiliation subie par la France, on n'aime pas le dire, mais il faut quand même regarder les choses en face, dans l'Afrique sahélienne. Donc c'est bien la preuve que c'est un tout autre jeu. Ce n'est plus le jeu d'hier qui se déplace, c'est de nouveaux lieux qui créent de nouveaux jeux.
Et si je remonte à la guerre du Vietnam ?
Vous pouvez même remonter un tout petit peu plus, parce que tout ça a commencé avec les premières guerres de décolonisation, Dien Bien Phu 1954, alors le Vietnam n'était pas loin, c'était même le Vietnam, et effectivement, vous avez tout à fait raison, la défaite de la France, considérablement plus forte que l'armée du général Giap, confirmée ensuite par la défaite des États-Unis au Vietnam, ou plus exactement leur incapacité de traduire en termes de victoire politique leur capacité militaire sur le terrain, tout ceci était le prélude de ce nouveau monde que je suis en train de décrire.
Et comment ça s'explique ?
Ça s'explique d'abord par le fait que, contrairement à ce qui était dans nos têtes, la puissance n'est pas le jeu international éternel. C'est-à-dire la puissance a vraiment été un moment des relations internationales lié à la construction et l'invention des États-nations, lesquels se portent de moins en moins bien. Et on voit bien que, précisément, dans les zones de guerre actuelles, ce n'est plus l'État qui mène le jeu, mais des milices, des bandes, des acteurs. Donc il y a eu une déconnexion de la rationalité étatique. Et la chute de l'État a fait tomber avec l'État la puissance. Et deuxième élément explicatif, c'est que cette puissance des uns n'a pas été remplacée par la puissance des autres, mais c'est au contraire la faiblesse des autres qui a eu un effet, je dirais, de désorganisation générale du jeu politique. Qu'est-ce que ça veut dire désorganisation ? Ça veut dire des États qui s'effondrent, ça veut dire des nations qui se déchirent, des sociétés civiles qui n'arrivent pas à se constituer, et tout ceci crée, dirait Émile Durkheim, des situations pathologiques, en tous les cas des situations de grand désordre. Et le désordre, c'est un autre facteur de la conflictualité. On a cru que la guerre ne s'expliquait que par la compétition entre États et entre puissances. Mais il y a aussi des situations où le désordre crée, non pas la guerre, parce que j'aime pas employer le même mot, tant les choses sont différentes, mais en tous les cas, des formes nouvelles de conflictualité, comme celles qu'on observe actuellement en Syrie, au Yémen, au Congo ou au Mali.
Qu'est-ce qui faisait qu'un État était puissant ? C'est son armée, son économie ?
C'était d'abord sa marque essentielle, qui est la souveraineté. C'est facile à comprendre. Quelle a été la marque de fabrication des États-nations qui sont apparus en Europe à la fin du Moyen-Âge ? C'était la souveraineté. Or, quand vous êtes souverain, par définition, vous ne vous soumettez à aucune loi générale et universelle. Vous faites ce que vous voulez. C'est la définition même de la souveraineté. Si les États étaient dans une conduite qui les amenait à faire comme ils l'entendaient et qu'ils rationalisaient à travers l'idée que c'est conformément à leur intérêt national, comme on disait à l'époque, la seule façon de vider les différents dans une situation de compétition entre intérêts nationaux distincts, c'est effectivement de faire la guerre. Quand vous n'êtes soumis à aucune loi commune et que vous êtes dans une situation de compétition, eh bien lorsque le contentieux est trop fort, vous utilisez la force pour le vider. Ça, ça a été la guerre. L'erreur, c'est qu'on a pensé que cette guerre-là couvrait toutes les formes de conflictualité et qu'il n'y en avait pas d'autres. Or, en réalité, il y en avait d'autres dont on ne se souvenait plus, qui existaient dans d'autres contextes, le contexte féodal, le contexte impérial, le contexte tribal, le contexte segmentaire. Et ces vieilles guerres dont on ne se souvient plus, elles renaissent en quelque sorte de ce dépassement, de cet affaissement de l'État-nation et de l'apparition donc de formes politiques beaucoup plus complexes et beaucoup moins lisse, beaucoup moins réductible, je dirais, à des schémas simples de compétition.
Pour essayer de comprendre, donc, pendant la période coloniale, ce qui faisait qu'on arrivait à imposer sa loi, qu'est-ce qui explique cette soumission, enfin, il y a eu ces soumissions.
C'est un chapitre très intéressant. Et pour faire une confidence, ça sera même le thème essentiel de mon prochain livre, sur quoi je travaille actuellement. Il y a eu une erreur d'optique. C'est-à-dire, on a cru que ça s'est fait facilement, que voilà. Toujours cette obsession de la puissance. C'est-à-dire, on était les plus puissants. De temps en temps, on disait on était aussi les plus intelligents, pas les plus avancés, les supérieurs, puisque les autres, c'était, comme disait Jules Ferry, les races inférieures. Donc, cette domination, elle allait de soi. Et d'un certain point de vue, pour que le schéma fût cohérent, il fallait à tout prix montrer que cette domination se faisait sans aucun problème. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a jamais eu soumission totale. Et une analyse historique attentive des pays colonisés au XIXe et au début du XXe siècle montre qu'il y avait toujours des formes de résistance. Il y avait du djihad au XIXe siècle. Il y avait des seigneurs de guerre qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à un Ben Laden ou à un calife Bagdadi. Et ils s'appelaient Omar Tal, Lamine Dramé. Ils faisaient explicitement le djihad. Ils avaient autour d'eux des élèves, des disciples. Et vous savez comment on les appelait au XIXe siècle? On les appelait les talibans. Bon. Donc, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Bien entendu, le contexte aujourd'hui est profondément renouvelé parce que les techniques de communication, parce que la mondialisation, parce que beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus spectaculaire. Et puis surtout, il s'exporte jusque chez nous, jusqu'en Europe. À l'époque, effectivement, Feder, Bougalieni avaient face à eux des bandes armées. Personne n'en entendait parler, sauf les soldats qui se battaient sur le terrain. Mais il y a toujours eu, non seulement cette résistance, mais ce que dans mon livre j'appelle la contre-socialisation. La contre-socialisation, c'est quoi? Bon, des gens viennent de l'extérieur, ils veulent non seulement nous dominer, mais nous administrer. Nous, on sort, on ne veut pas. Et comment fait-on pour sortir? Quand vous avez des armées, effectivement, beaucoup mieux équipées, beaucoup mieux organisées, une administration assez forte et assez solide, comment vous faites pour sortir? Vous vous affichez avec une culture et surtout une religion qui n'est pas celle du colonisateur, parce que là, il ne viendra pas nous chercher, il ne peut pas venir nous chercher. D'où le succès de l'islam, dès le XIXe siècle, auprès de ces populations colonisées qui étaient réticentes et réactives contre la colonisation. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces rebelles, entre guillemets, comme on les appelait déjà, non seulement agissaient contre la puissance coloniale, mais ils agissaient contre les chefferies traditionnelles, qui étaient jugées complices du pouvoir colonial. Comme aujourd'hui, la résistance, ou les groupes djihadistes plus exactement, agissent évidemment contre les armées occidentales, mais aussi contre les États, j'allais dire indigènes, les États autochtones. Et pour vous dire que l'histoire ne s'est pas profondément renouvelé. C'est les formes qui ont changé. Et la grande différence aussi, c'est que maintenant, on le sait et on le vit sous forme d'une peur rapprochée parce qu'on sait que cette violence-là peut atteindre le Bataclan, peut atteindre Molenbeek, peut atteindre tous nos lieux de proximité, les Twin Towers, etc. Ce qui, au XIXe siècle, évidemment, n'avait aucun sens.
Bertrand Badi, auteur de « Quand le Sud réinvente le monde », essai sur la puissance de la faiblesse, paru aux éditions La Découverte, est l'invité du magazine.
Il n'y avait pas de communication, et puis surtout, il n'y avait pas à l'époque, et ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, d'imaginaire mondialisé. C'est-à-dire que celui qui se battait quelque part dans le Foutatoro ou dans le racoin de la Guinée avait pour univers imaginé ce petit morceau d'Afrique, et c'est tout. Aujourd'hui, avec les progrès de la communication, Internet, la télévision, l'imaginaire du djihadiste est un imaginaire mondial. C'est-à-dire le djihadiste, il se voit, il se sent autant à Raqqa, à Mossoul, à Tombouctou, à Kano, qu'à Paris, qu'en Seine-Saint-Denis ou qu'en Loire-Atlantique. Et ça, c'est très nouveau parce que c'est là que les comportements humains ont changé. Comportement humain au XIXe siècle, on avait un savoir local et on avait un imaginaire local. Aujourd'hui, on a un savoir mondial et on a un imaginaire mondial.
Si on vous lit, on va être apeuré, on va se sentir en état d'insécurité permanente.
Pourquoi ? Moi, je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi aurait-on peur de ce qui est l'évidence, de ce qui s'explique et se comprend ? Moi, j'ai peur de ce que je ne comprends pas, parce que ce que je ne comprends pas peut m'attaquer un jour sans que je m'y attende et sans que je comprenne. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. Alors, dès lors qu'on comprend, on doit réagir conformément à ce que l'on a compris. Le drame, aujourd'hui, c'est des princes du Nord, des vieilles puissances, qui croient que le monde n'a pas changé et qui continuent comme si on était au XIXe siècle, au début du XXe siècle, comme si une nouvelle bataille de la Marne allait régler le problème dans le Sahel. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand il y a eu la bataille d'Alep, puis ensuite la bataille de Raqqa, quand il y a eu la bataille de Mossoul, on a dit « ça y est, Daesh est vaincu ». Daesh ne contrôle plus les territoires en question, mais Daesh est toujours là et sous des formes différentes. Donc effectivement, il faut, pour réagir, être de son temps. Non plus fonctionner comme Clausewitz nous l'enseignait. Il faut être de son temps, c'est-à-dire traiter ces questions quant à leur fond. Alors, ça veut dire quoi, les traiter quant à leur fond ? C'est d'abord les remettre entre les mains de l'acteur local. C'est l'acteur local qui est en mesure de décider de ce que seront ces conflits qu'il a inventés et qu'il a produits. Ce n'est pas nous qui allons régler, tel des démiurges, tous les problèmes du monde. On n'a pas pu régler un conflit du Sud depuis les indépendances. Donc, plus de modestie et plus de mesure. Et puis, il faut comprendre que si l'acteur maléfique, c'est la faiblesse et non plus la puissance, de même qu'on pouvait autrefois contenir la puissance pour éviter qu'il y ait des guerres tous les jours, il faut aujourd'hui vaincre la faiblesse. Et vaincre la faiblesse, c'est quoi ? C'est une transformation du monde vers plus d'égalité. Vous savez que le système monde est le système le plus inégalitaire qui ait jamais existé depuis Adam et Ève. Entre un Malawite qui a un PIB par habitant de $300 par an et un Norvégien qui en est à 120 000, on voit bien que l'écart est plus grand qu'entre les Gilets jaunes et même la famille Dassault. Donc c'est un très très grand problème, cette inégalité sociale mondiale dont personne ne parle, alors qu'on en est l'otage privilégié. Voilà. Et puis, il faut aller au-delà, c'est-à-dire le grand problème lorsque vous êtes dans des situations de faiblesse, c'est l'inefficacité des institutions. S'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de politique publique. S'il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas de fonctionnement des services publics, il n'y a pas véritablement de satisfaction des besoins sociaux et humains fondamentaux. Donc, il faut redonner une capacité institutionnelle à ces sociétés de souffrance. Et puis, troisièmement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, restaurer l'acteur local. Il faut qu'il soit associé à la gouvernance du monde. Le monde est gouverné par le G7, quelquefois, mais de manière très accessoire, par le G20, ou par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ou par ceux qui se croient grands, alors qu'aujourd'hui, tout le monde, en réalité, est petit. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire, il n'y a de multilatéralisme efficace qu'inclusif. Il n'y a de multilatéralisme efficace qu'inclusif, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire 193. Autrefois, un sommet entre Nixon et Brejnev réglait réellement les affaires du monde, parce que le monde était ainsi constitué. Aujourd'hui, un sommet entre Trump et Poutine, ou même entre Trump et Xi Jinping, peut à la rigueur régler les questions bilatérales, mais ne peut pas régler les problèmes du monde. C'est ça la différence.
Si le puissant devient faible, il n'y a plus que des faibles.
Oui, c'est ce que je dis, tout le monde est petit. C'est exactement la formule que je présente avec des guillemets, parce que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que ça. Mais je pense qu'on est plus près de la vérité quand on dit tout le monde est petit, plutôt que ce que l'on disait il y a 40 ou 50 ans, quand on vous expliquait qu'il y avait les 5 grands, les 3 grands, les 2 grands, vous rappelez ce mot grand que l'on mettait à toutes les sauces. Constater qu'on le dit moins. On le dit moins maintenant déjà, ce qui est quand même un signe implicite de transformation. Mais surtout, il n'a plus de sens. Il n'a plus de sens. Rappelez-vous la guerre israélo-arabe, c'était israélo-arabe à l'époque en 1967, elle a été réglée par le fameux téléphone rouge entre Brejnev et, à l'époque, Lyndon Johnson. Lorsque ensuite est apparue la guerre de 1973, elle a été réglée aussi par la ligne rouge entre Brejnev et Nixon. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, toutes les lignes sont occupées.
Donc, c'est nivelé par le bas.
Je ne suis pas sûr. D'abord, vous voyez, je ne mettrai pas les petits en bas. C'est-à-dire que c'est un schéma qu'il faut dépasser. C'est-à-dire, encore une fois, redonnons aux acteurs concernés leur rôle privilégié. Il y a une grande question de relations internationales qui a toujours été mise sous la table et que l'on n'a jamais examinée en face, qui est de se demander dans quelle mesure on peut s'approprier des conflits qui ne vous appartiennent pas. Le conflit, je vais prendre n'importe lequel, prenons l'un des plus dramatiques, le conflit syrien. Est-ce que les États-Unis, est-ce que la Russie, qui est très active en ce moment sur le plan militaire, peuvent s'approprier le conflit syrien? S'ils s'approprient le conflit syrien, qu'est-ce qui se passe? Le conflit syrien n'est pas réglé, mais on ajoute au conflit syrien tous les paramètres liés à l'intervention de puissance russe ou américaine. Donc on le complique. Conflit malien, la France n'est pas en mesure de régler le conflit malien. Et si la France se mêle du conflit malien, elle ajoute une guerre à la guerre.
Je ne sais pas si c'est pertinent d'avoir cette même réflexion, parce que là, c'est une réflexion à l'échelle internationale, mais par rapport à notre actualité, à l'échelle nationale.
Vous savez, bien des choses de ce que j'ai dites sont valables à l'échelle de chacune des nations, France ou une autre. 2-3 points, si vous voulez, pour faire écho à votre question. Je disais qu'il y a une espèce d'ignorance de la dimension sociale de la vie internationale. Au niveau national, de quoi souffrons-nous? On a aboli le social. C'est-à-dire, l'être humain n'est plus qu'un agent économique. Et cette dimension sociale qui a été notre fierté à travers nos politiques sociales, notre état de bien-être inventé au fin du 19e siècle, aujourd'hui n'est plus prise en considération. Vous avez dit tout à l'heure, je vous ai repris amicalement, le petit est en bas. Eh bien, ça aussi, c'est une équation diabolique, parce que on a pris l'habitude de considérer que le petit, il est en bas. Et en bas, c'est le dernier servi, contrairement à celui qui est en haut. Qui est des petits, c'est inévitable. Il y aura toujours des petits, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront moins grands que d'autres. Pour autant, qu'est-ce qui permet de dire que le petit a vocation d'être en bas? Et il y a tout un problème de dignité et d'humiliation que l'on retrouve effectivement autant dans notre actualité de décembre 2018 en France que on peut aussi considérer au niveau mondial, c'est-à-dire effectivement la manière dont se trouvent méprisées les populations africaines, le fait qu'on décide entre Européens ce que va être le sort de tel ou tel État africain, ça devient insupportable. Bon, la différence qui existe, c'est que j'entendais sur un barrage en région, je ne me rappelle plus exactement où, quelqu'un qui disait « on ne peut plus faire de cadeaux Noël à nos enfants », ce qui est effectivement très choquant et problématique, ou « on ne peut pas se faire un petit week-end en amoureux ». Projetez ça en Afrique, au Sahel. Est-ce que vous croyez que les Sahéliens sont encore à se demander s'ils peuvent se payer des week-ends en amoureux ? C'est-à-dire que ouvrons les yeux sur la hiérarchie des douleurs et des souffrances. C'est-à-dire qu'au nom de la distance, nous considérons que les souffrances énormes qui sont subies en Afrique, ou le destin tragique de ces gens que nous méprisons et qui finissent au fond de la Méditerranée dans l'indifférence générale, est infiniment plus grave que ce que nous pouvons vivre en France. Et dans la mondialisation, on ne peut plus faire l'économie de cette réflexion. On ne peut plus faire l'économie de cette réflexion. Et moi, ce qui me gêne dans les mouvements sociaux actuels, c'est que souvent, ils associent des revendications parfaitement légitimes à des crispations identitaires qui se retournent contre les migrants et qui se traduisent par, souvent, des violences faites aux populations migrantes ou aux populations étrangères. Ça va pas, c'est dangereux, ça veut dire que quelque part, le problème n'est plus l'égalité, mais le repli, c'est-à-dire savoir effectivement s'embastiller quand on est mieux loti que les autres. Autrefois, c'était possible, d'ailleurs, c'est quand même sur cette base que s'est faite la colonisation. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est-à-dire aujourd'hui, si on fait ça, eh bien, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, les gilets jaunes d'Afrique, ça ne sera pas des barrages au péage autoroutier, ça sera une violence effrayante qui déferlera sur nous. Donc il faut aussi en prendre conscience.
Quand je parlais de petits, c'est juste parce que je voulais signifier que nous n'étions pas tous sur le même plan. Quoi.
Bien sûr.
Mais c'était pas méprisant de ma part.
Non, mais moi je l'ai repris. Au contraire, j'ai été même plus loin que vous. J'ai dit, aujourd'hui il n'y a plus de grands, tout le monde est petit. Mais les petits n'ont pas vocation à être en bas, c'est ça que je voulais dire. C'est le petit, on est toujours le petit de quelqu'un. Voilà. Et je vous dis, dans la mesure où le grand aujourd'hui, sur le plan mondial, sur le plan national c'est différent, plan mondial, le grand n'existe plus véritablement, parce que c'est une grande différence qu'il y a entre le plan national et le plan international. Sur le plan national, le riche, le fort, il continue à être riche et à être fort. Sur le plan mondial, le riche, le fort, il est plus ou moins riche, mais sa force n'existe plus. Ça, c'est la grande différence. Eh bien, il faut tenir compte de cela et donc donner à chacun la chance de pouvoir participer à une gouvernance mondiale globale.
On a fait le tour par rapport à votre intervention de ce soir.
Ah, il y a d'autres choses.
Il
y a d'autres choses que je dirais ce soir. Je commencerai d'ailleurs mon intervention ce soir en disant quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir le monde à partir de notre fenêtre. Alors, il faut faire l'effort, c'est ça peut-être l'originalité de ma démarche, de sortir de chez soi et de prendre du recul, d'aller chez le voisin, et même pas le voisin mitoyen, mais un peu plus loin, et de là, regarder sa maison, la voir de l'extérieur, et la comparer à celle du voisin lointain. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que ce que l'on croyait évident chez soi ne l'est plus tellement. Eh bien, au lieu de continuer à regarder le monde à partir de notre fenêtre, essayons de le regarder à partir du sud. Vous savez, je vais très souvent en Afrique en ce moment, parce que je sens qu'il se passe des choses là-bas. Et quand vous regardez le monde à partir de l'Afrique, ben, il ne ressemble plus du tout à ce que vous connaissez. C'est tout à fait autre chose. Eh bien, essayons justement cette lecture à partir d'autre chose.
Il faudrait faire des collections de planisphères en fonction des lieux où ils sont édités, parce que ce n'est pas la même représentation du monde.
Tout à fait, et pourtant la Terre est ronde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre.
Merci à Bertrand Badi, auteur de « Quand le Sud réinvente le monde », essai sur la puissance de la faiblesse, paru aux éditions La Découverte, pour sa libre participation à ce programme, réalisé avec le concours de l'IEA OLU.